perdons, nous allons perdre. » Et alors l'Éternel arrête Élie, il l'arrête. Et il lui dit, « Eh bien voilà, tu sais, nous connaissons la suite, tu n'es pas seul. J'ai 7000 hommes, mais surtout, je me suis réservé 7000 hommes. » Et il a fallu que Élie apprenne qu'il devait se considérer comme quelqu'un qui était réservé pour l'Éternel. Eh bien, Jérémie, peut-être, avait connu cela, l'avait compris, d'être réservé pour l'Éternel. Lorsque nous sommes engagés dans un service, eh bien, de savoir que ce but, celui que je sers, c'est le Seigneur. Le maître que je sers, c'est le Seigneur. Celui vers qui je vais, c'est le Seigneur. À ce moment-là, on voit, je suis réservé. Le Seigneur veut, il m'a réservé, il m'a préparé, a dit Jean, depuis longtemps réservé. Gardons bien en mémoire cette expression, chers amis, parce qu'elle traverse la parole. Lorsqu'en Deutéronome 7, Dieu dit, mais je me suis mis à part un peuple qui m'appartienne en propre. Mais c'est toute l'histoire que nous avons, c'est toute cette histoire. Eh bien, cette pensée, elle est là, réservée. Dieu se réserve, il veut un peuple qui lui appartienne. Et si nous comprenons bien cela, j'insiste encore, en comprenant bien cela, il y a des pensées qui nous font du mal et qu'on n'arrive pas bien à comprendre comme celle de la séparation, eh bien elle s'éclaire. Ça devient lumineux lorsque nous comprenons que nous sommes réservés pour le Seigneur, que c'est lui qui l'a désiré, que c'est Dieu qui le veut, un peuple qui m'appartienne. Considérez toujours cet aspect positif, c'est celui que Dieu veut. Donc voilà, attention à la solitude, attention, ne nous enfermons pas, ne nous isolons pas. Eh bien, Jérémie, s'il a fait part de certaines paroles de découragement, je vais peut-être un petit peu vite pour cela. Je rappelle donc, comme nous venons de le dire, de ne jamais s'isoler. Jérémie a su porter, je voudrais citer ce verset, c'est ce que je cherchais, chapitre 18, verset 20, pour montrer que l'état d'esprit de Jérémie n'était pas celui d'Élie. Donc au verset 19, il dit « Éternel, fais attention à moi, écoute la voix de ceux qui contestent avec moi. » Et puis alors un peu plus loin, il lui dit, verset 20 au milieu, « Souviens-toi que je me suis tenu devant ta face afin de parler pour eux en bien, afin de détourner d'eux ton courroux. » Voilà l'attitude de Jérémie. « Je me suis tenu devant ta face pour parler d'eux en bien. » Il a intercédé pour le peuple. Mais l'Éternel avait dû lui dire, et la mission a été tracée, ils m'ont abandonné, ils n'ont pas voulu de moi. Et si l'Éternel dit cela, c'est dans la connaissance parfaite du cœur du peuple. Un peuple qui s'est détourné, nous allons voir quelque chose sur ce cœur de ce peuple. Eh bien, retenons donc bien ces deux attitudes. Et donc, lorsque nous pouvons éprouver dans un service peut-être lié à une opposition de ce monde, une certaine solitude, eh bien, tournons nos regards en effet vers notre Sauveur, celui qui a été humble et solitaire, celui qui a été notre modèle et qui reste ce modèle. Regardons vers lui, sachons faire taire notre âme, pour reprendre encore une expression du livre dans des psaumes. Faire taire notre âme, c'est difficile. C'est difficile lorsqu'il y a une opposition. Lorsque arriver à pouvoir tout remettre au Seigneur, se remettre à lui, c'est lui seul, et faire taire notre âme. Alors Jérémie, goûtant cet opprobre, et nous avons chanté ce cantique, et je reviens sur ce verset 2 du 140, « Fais-nous goûter combien c'est douce chose pour tout enfant de Dieu qui sur toi se repose de t'aimer, de te servir. » On se dit, mais comment pouvons-nous chanter cela? Combien c'est douce chose. Ça n'a pas été une douce chose pour Jérémie. En effet, ça n'a pas été une douce chose. Un service n'a pas toujours été cette douce chose. Oh, la fin, le but final, il est en effet doux. Jérémie avait tout le secours, il avait toutes ses ressources, mais il a dû expérimenter dans des jours difficiles que ce n'était pas une douce chose. Mais le Seigneur avait en réserve beaucoup de bienfaits pour lui. Et s'il a éprouvé en effet cette opposition, cet opprobre, cette solitude, ce découragement, alors on peut se tourner vers des amis, on cherche des amis. Et le Seigneur nous donne des amis. Il y a le Seigneur qui nous donne des amis qui placent sur notre chemin. À nous aussi de chercher les bons amis, de ne pas s'asseoir à siège des moqueurs. Jérémie le dit, garde-moi de ces amis-là qui portent la calomnie. C'est le passage que nous avions lu dans le verset du chapitre 9. mais chercher des amis qui vont pouvoir l'encourager, l'aider. Et alors, on est surpris de voir tous ces amis qui ont environné la vie de Jérémie. On va en citer que quelques-uns. Le premier, c'est Josias. Pourtant, on ne voit pas Josias et Jérémie ensemble. On ne les voit jamais dans la parole parlée. Pourtant, Jérémie est le fils de Hilkija. On pense que c'est Hilkija, le sacrificateur, qui avait retrouvé avec Safan la parole qui était cachée dans l'histoire de Josias, pour lire en 2 Chroniques 35, mais ce n'est pas sûr. Par contre, il est évident que Jérémie avait été de l'âge de Josias. Lorsqu'il a commencé à prophétiser, Josias avait 21 ans. Donc Jérémie avait bien le même âge, ou à peu près. Lorsque la parole a été retrouvée, cachée, Josias avait 26 ans. Donc Jérémie, probablement, à peu près le même âge. Voilà deux jeunes gens, deux jeunes hommes, chacun engagé dans un service. Ils étaient différents. Le service de Josias, il était le roi qui avait commencé à régner à 8 ans et qui a eu un des plus beaux rois d'Israël, qui a eu à cœur eh bien, de détruire les hauts lieux, les achères, de retrouver cette parole qui était cachée, de la lire, de déchirer ses vêtements lorsque cette parole a été lue, de s'humilier et puis après de célébrer la Pâque comme jamais elle n'avait été célébrée. Voilà ce qu'a fait Josias, un jeune roi. Et à côté de lui, il y avait Jérémie. Un jeune prophète qui, à cette époque, marchait, avançait. Alors on pourrait se dire, mais est-ce que leurs voix ne se sont jamais croisées? Mais la parole ne nous le dit pas, mais nous dit une seule chose. Et je trouve qu'il est intéressant de lire cette seule chose. Nous lirons 2 Chroniques 35. 2 Chroniques 35, c'est la mort de Josias, à la fin du chapitre. Verset 23, « Et les archers tirèrent sur le roi Josias, et le roi dit à ses serviteurs, ôtez-moi d'ici, car je suis grièvement blessé. Verset 24, et il mourut. Et on l'enterra dans les sépulcres de ses pères. Et tout Juda et Jérusalem menèrent deuil sur Josias. Et Jérémie fit les lamentations sur Josias. Voilà, chers amis, c'est la seule parole qui nous est rappelée. Jérémie fit les lamentations sur Josias. Les voilà ces deux jeunes gens qui ont commencé ensemble, chacun son service, et alors que l'un terminait, achevait sa course, en quelque sorte, Josias, de manière dramatique, Jérémie allait poursuivre la sienne. Mais en attendant, c'est lui qui vient dire quelque chose à l'occasion de l'enterrement de son ami. Tous les deux ont marqué cet attachement à la parole. Tous les deux ont marqué cette fidélité, cette crainte de l'Éternel. Et bien voilà, à ce moment où Josias s'en va. Mais Josias fait partie de ceux qui reviendront. Jérémie va parler. Il va dire quelque chose. Voilà un témoignage. Voilà, à partir de là, on peut se dire que ces chemins de ses amis se sont croisés. Que Jérémie a eu du réconfort malgré son opposition. Un autre, c'est bien sûr Baruch, dont on a parlé tout à l'heure, son fidèle secrétaire, celui qui a écrit cette parole, on le verra dans le chapitre 32 à 36 plus loin, et qui s'est très lié à Jérémie, qui a été avec lui au chapitre 32, il est avec Jérémie alors que Jérémie est dans la prison. Il n'est pas loin de lui, il est près de lui. Plus tard, il partira avec Jérémie aussi en exil en Égypte. Il va l'accompagner. Voilà, Jérémie a un ami aussi fidèle chez Baruch. Mais il y en a un autre, et je vais lire cette histoire de cet autre ami. C'est dans le chapitre, il s'agit d'Ebed-Melech. C'est le chapitre 38. Le chapitre 38, donc, Jérémie a été mis dans la fosse. Chapitre 38, verset 6. « Et ils prirent Jérémie et le jetèrent dans la fosse de Malkija, laquelle était dans la cour de prison. Et ils descendirent Jérémie avec des cordes. Et il n'y avait point d'eau dans la fosse, mais de la boue. Et Jérémie enfonça dans la boue. » Verset 7. « Et Ebed-Melech, l'Éthiopien, l'eunuque, qui était dans la maison du roi, apprit qu'ils avaient mis Jérémie dans la fosse. Et le roi était assis dans la porte de Benjamin. Et Ebed-Melech sortit de la maison du roi et parla au roi, disant, « Ô roi, mon seigneur, ces hommes ont mal fait dans tout ce qu'ils ont fait à Jérémie le prophète, qu'ils ont jeté dans la fosse. Et il mourra là à cause de la famine, car il n'y a plus de pain dans la ville. » Et le roi commanda à Ebed-Melech, l'Éthiopien, disant, « Prends d'ici 30 hommes sous tes ordres et fais monter Jérémie le prophète hors de la fosse avant qu'il meure. » Et Ebed-Melech Amalek prit les hommes sous ses ordres et alla dans la maison du roi, au-dessous du trésor, et il prit de là de vieux lambeaux d'étoffe et de vieux haillons, et les descendit avec des cordes à Jérémie dans la fosse. Et Ebed-Melech l'Éthiopien dit à Jérémie, « Mais ces vieux lambeaux et ces haillons, sous tes aisselles, les aisselles de tes bras et sous les cordes. » Et Jérémie fit ainsi, et ils tirèrent Jérémie dehors avec les cordes, et le montèrent hors de la fosse. » Et on lit à la fin du chapitre 39, on tourne la page. La parole de l'Éternel vint à Jérémie, verset 15. « Va, tu parleras à Ebed-Melech, ainsi dit l'Éternel. » Verset 17, « Je te délivrerai, dit l'Éternel, tu ne seras point livré en la main des hommes dont tu as peur, car certainement je te sauverai, car tu as eu confiance en moi. » Voilà ce que l'Éternel dit d'Ebed-Melech. Ebed-Melech qui a sauvé Jérémie. Alors, pourquoi j'ai retenu cette petite histoire? Parce qu'elle a l'air insignifiante. Mais elle est très belle. Bien sûr, Ebed-Melech était préparé par l'Éternel lui-même pour secourir Jérémie. On n'a pas parlé d'amitié proprement dite entre Ebed-Melech et Jérémie. Peut-être ils se connaissaient, mais la parole ne nous dit pas. Mais il était préparé. D'ailleurs, un ami peut être préparé par le Seigneur pour nous. Pourrions lire avec profit des versets du livre des Proverbes sur les amis. Alors que fait Ebed-Melech? D'abord, il a peur des hommes. On vient de le lire à l'instant. Et bien, malgré sa peur, il est allé voir le roi. Et il a dit au roi, « Mais ce Jérémie, qu'a-t-il fait ? Et il va mourir de faim, il est dans la boue. » Et donc, il va aller le chercher. Mais Ebed-Melech, il prend des vieux tissus, des vieux chiffons pour mettre sous les aisselles de Jérémie, puisqu'on va le tirer avec une corde. Ceci afin qu'il ne soit pas blessé. Voilà quelqu'un qui prend soin. Alors, chers amis, on peut se dire, mais pourquoi la parole nous dit des choses comme cela? Pourquoi elle nous rapporte? Il y a des leçons qu'il nous faut apprendre, toujours des leçons. Nous voyons, nous sommes dans, par exemple, dans la détresse, malade, nous avons besoin d'être secourus, alors le Seigneur, dans sa grâce, nous envoie un ami qui vient nous voir, qui vient nous visiter peut-être. Et alors, cet ami, on va dire que c'est Ebed-Melech, il vient avec délicatesse, avec tendresse, et il va nous aider à sortir de la situation morale peut-être dans laquelle nous sommes, il va nous aider, il va nous faire du bien. Alors on pourrait se dire aussi que de temps en temps on va faire du bien nous-mêmes et on veut s'approcher de tel ou tel et on sent que c'est difficile, et puis peut-être on ne fait pas très attention. On est peut-être un peu brutal, on est peut-être sûr de nous, on va lire tel ou tel verset, on va parler de telle ou telle manière. Et puis, et peut-être on n'a pas mis les chiffons, on n'a pas pris soin comme Ebed-Melech, on n'a pas mis les chiffons sous les aisselles, et on va blesser notre ami. Et on va lui faire du mal peut-être, parce qu'on a été trop vite, ou parce qu'on n'a pas choisi, on n'a pas parlé comme il fallait. Voilà un moment où il nous faut cette tendresse, cette délicatesse. Eh bien, Ebed-Melech, à cet instant de la vie de Jérémie, a montré cette délicatesse, cette tendresse. Pensons à nous. Pensons à ce que nous avons à faire quand nous pensons à nos amis que nous visitons. Pensons aussi à nous lorsque nous sommes comme Jérémie peut-être et que nous faisons appel au secours des uns des autres. Que le Seigneur nous aide, nous garde. Alors voilà, j'en arrive à la partie centrale. La partie centrale, je l'appelle une affaire de cœur. Tout le livre de Jérémie, c'est une affaire de cœur. Et si nous n'avons pas compris cela, eh bien nous avons perdu. Nous perdrons. C'est une affaire de cœur. D'abord, la première chose, que dit Dieu? Nous l'avons rappelé. Lisons ces passages parce qu'ils sont essentiels. Chapitre 17, voilà le constat de Dieu qui sonde le cœur. Chapitre 17, lisons le verset 9, le cœur est trompeur par-dessus tout et incurable. Qui le connaît? Moi, l'Éternel, je sonde le cœur. Israël, Juda n'avait pas voulu se détourner. Ils avaient accepté lorsque Josias avait détruit. Ils s'étaient réjouis avec Josias, mais dans leur cœur, ils ne s'étaient pas détournés. L'Éternel est obligé de dire que Juda n'est pas revenu de tout son cœur à lui. Ce que veut l'Éternel, c'est en effet le cœur de son peuple. Et voilà, il constate que le peuple était dans un tel état que le cœur de son cœur est dur. Les expressions sont employées plusieurs fois. Un cœur rebelle, un cœur qui n'est pas docile, un cœur obstiné. Voilà tous les adjectifs qu'on trouve dans ce livre de Jérémie concernant le cœur de ceux qui sont opposés, du peuple opposé. De l'autre côté, il y a le cœur de l'Éternel. Mais l'Éternel, mais son, on a lu le chapitre 2. Il suffit de lire ces versets, de se souvenir des versets qui ont été lus dans le chapitre 2. Je me suis fiancé à toi, tu m'as abandonné. Mais l'Éternel aime son peuple. Mais l'Éternel parle à un peuple qu'il aime. Mais c'est parce que ce peuple l'a abandonné. Il va falloir qu'il le châtie, mais il va le châtier avec mesure. On trouverait encore ça dans le livre. Il va le châtier avec mesure. Et après, il va dire, mais après, je vais lui donner un nouveau cœur. On pourrait lire encore ces versets pour dire comme il l'aimait. Donc verset 7 du chapitre 12, j'ai souligné ce verset. L'Éternel dit, j'ai livré le bien-aimé de mon âme.